Bonjour, François. Extrait d'une vidéo de ce qu'a dit Lumumba sur le traître Mobutu avant sa mort. Au passage, merci à notre camarade Thibaut Obou pour cette piqûre de rappel. Qui tue par épée périt par épée. Étudiez le sort de la plupart des traîtres dans l'histoire de l'humanité. Ils finissent souvent mal. C'est le cas de Blaise Compaoré, de Mobutu et d'autres en Libye contre Kadhafi. Et vous verrez de vos yeux un jour le sort réservé aux traîtres de Gbagbo dans la situation de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Un traître, c'est souvent un individu qui lutte contre une cause commune, une cause collective, une cause juste. Il le fait soit de façon dissimulée, soit à visage découvert et en toute bonne conscience. Toujours pour des intérêts très personnels et égoïstes. L'opposition entre Lumumba et Mobutu est fondée sur deux enfants du Congo belge, aujourd'hui République démocratique du Congo, RDC. L'un patriote défendait la souveraineté de ce pays face à l'impérialisme belge. Et l'autre voulait un pays sous contrôle de la Belgique qui veut maintenir sa mainmise sur les énormes richesses de ce pays. Aujourd'hui, nous connaissons le bilan catastrophique du choix de Mobutu. Nous connaissons aussi le chaos qui sévit en Libye et le prix que payent les peuples ivoiriens dans l'opposition Gbagbo contre Ouattara Soro. En général, le traître est une personnalité jalouse, cupide, ambitieuse, soif d'argent, de pouvoir et de notoriété rapide. Ce sont ces traits de sa personnalité que l'ennemi repère en lui, les manipule et les utilise à ses fins. Donc, c'est toujours un jeu à trois acteurs. L'ennemi, le traître et enfin la victime. Mais une fois que l'ennemi utilise le traître pour atteindre son objectif, c'est-à-dire l'élimination de la victime qui lui barre le chemin vers un butin, son complice, le traître, devient pour lui encombrant. À l'étape suivante, l'ennemi va chercher à éliminer le traître aussi. Et cela prendra par différentes voies de complot, d'intrigue, de dénonciation, etc., etc., que nous ne détaillerons pas ici. Dans tous les cas, pour atteindre son but, l'ennemi utilise le mécanisme de, je cite, diviser pour régner en maître au milieu du traître et de la victime. Aujourd'hui, la langue française trône au milieu de toutes nos langues au Bénin. La plupart de nos intellectuels en langue française ne s'imaginent pas que c'est un travail minutieux et soigneux de l'ex-colonisateur, travail qui a divisé l'ensemble des peuples de notre territoire entre ethnies, tribus et régions et continue de nous manœuvrer en permanence pour pérenniser sa seule langue, ce qui lui assure sa domination sur nous tous. Alors que tous ces peuples avaient vécu par le passé dans une certaine harmonie sous différents empires du continent. Empire Songhaï, Empire du Mali, en pays du Ghana, etc. Ainsi, dès la période dite de pacification à partir de 1917 et après une colonisation armée brutale et violente, la France mettra en place une politique patiente pour diviser afin de pouvoir régner sur les peuples qu'elle vient de violenter et qui naturellement la détestent. Rappelons que la résistance des peuples de notre territoire a duré presque 30 ans, 1890 à 1920. Ainsi, les peuples d'Indiz et Bariba sont opposés entre eux pour masquer l'étouffement à coups de canon du chef Kaba et de tous les siens dans une grotte de l'Atakora. Les peuples d'Indiz et Bariba sont opposés entre eux pour faire oublier la décapitation sur la place publique de Bioguera, chef des Bariba. Les peuples Fon et les autres peuples du sud et du centre sont divisés sur le thème de dominant dominé, vendeur d'esclaves contre un peuple esclavagisé. Ici, c'est le roi Béhanzin défait et sa dynastie qui seront présentés aux autres peuples du sud comme les esclavagistes et porteurs de malheur dans le sud et centre de la nouvelle colonie, le Dahomey. Et pourquoi fait tout ça? La France oppose astucieusement l'ensemble des peuples du nord à ceux du sud sur le thème des croyances islam contre christianisme ou vaudou, ou alors, de façon plus triviale, de peuples civilisés du sud contre peuples non civilisés du nord. C'est donc cette manipulation géante des peuples vaincus et soumis à la sortie d'une colonisation violente, brutale et humiliante qui configure la vie politique et sociale du Bénin depuis la colonisation jusqu'à nos jours. Les bourreaux, ennemis de Kaba hier, de Bioguera et de Béhanzin, ainsi que de leur peuple, sont devenus les amis, les sauveurs, les bienfaiteurs. Les collabos ou traîtres sont devenus des alliés de l'ennemi contre tous ceux qui présentent des velléités de patriotisme. Ces derniers sont devenus les victimes de la politique de colonisation et de la pacification française. C'est à travers cette politique de pacification que la France instaura la langue française comme arbitre au sein de toutes les langues de nos peuples opposés et divisés. Ainsi, le Bariba rejette le Dindi s'il le faut en préférant la langue française et vice-versa. Le Nago, Adja, Wemehola, etc. rejettent le Fon et préfèrent le français et vice-versa. Et les peuples du nord du pays rejettent les langues des peuples du sud du pays au profit de la langue française et vice-versa. C'est donc dans une sorte de schizophrénie ou syndrome de Stockholm que le méchant blanc, violent et colonisateur est devenu l'ami préféré des frères opposés. Et il fit oublier progressivement ses propres crimes et méfaits depuis la traite négrière jusqu'à nos jours. Pendant que les frères ennemis n'arrêtent plus de se faire haïr ou de se haïr réciproquement. Et cela, maintenant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même à l'intérieur de ces régions, sur des thèmes artificiellement créés et renouvelés en permanence pour maintenir le feu de la division. La traîtrise, le martyr, et le tiers-ennemi sont un scénario aussi vieux que le monde. C'est le ressort principal qu'utilisa partout les Européens, partis à la conquête du monde pour défaire tous les peuples qu'ils ont colonisés. Je cite, On ne change pas une formule qui gagne. Fin de citation, disait-il. Voici un exemple tiré de la Bible. C'était déjà du temps de l'Empire romain. Petit 1. Ponce Pilate. Ponce Pilate fut un colon romain et préfet de la Judée en Israël. Il opposa les Juifs entre eux. Il finit par ordonner l'arrestation de Jésus, un Juif qu'il livra aux autres Juifs pour crucifixion. Dans le même temps, il dit ceci, je cite, Je m'en lave les mains. C'est des Juifs qui tuent un Juif, mais pas moi. Fin de citation. Sur la base de ce récit, chrétiens, catholiques et juifs continuent de s'en vouloir jusqu'à nos jours, au point où ils ont oublié que c'est une manipulation de leur ennemi commun, le colonisateur romain, petit de Judas. Judas, juif et disciple de Jésus, est en complicité avec les juifs pharisiens qui voyaient d'un mauvais œil les enseignements de Jésus. Enseignements qui donneront lieu plus tard au récit des évangiles. Judas, considéré comme traître, favorisa l'arrestation de Jésus. Petit 3. Jésus, un juif, victime, qui fait figure ici de révolutionnaire, cherchant à faire évoluer les mentalités et comportements de l'époque dans cette colonie romaine. C'est la victime expiatoire par laquelle l'Église chrétienne et ses dogmes se répandront sur toute la planète plus tard. Dans une lutte collective, inutile de passer du temps à identifier un traître. Il fait partie du moteur de l'histoire. Il faut se concentrer sur la lutte. Un potentiel traître se découvre souvent par lui-même, par ses agissements. Un proverbe fond du Bénin dit ceci. Enasiku bugbe amlondoa. On ne s'empêche pas de dormir de peur de mourir. Dans tous les cas, la cause collective, commune et juste qui est défendue vaudra toujours plus la peine que le sacrifice consenti par la victime, le martyr ou le héros. Et il en sera ainsi de la victoire certaine de la vision LMA sur la société obsolète de gestion néocoloniale. Traîtres et héros sont donc des moteurs de la dramatique et tragique histoire des sociétés humaines. Jomaïha Koudou, porte-parole du Front Souverain, 21 mars 2020, je vous remercie.